Je peux expliquer le logiciel libre en trois mots. Liberté, égalité, fraternité.
Liberté.
Les logiciels respectent la liberté de leurs utilisateurs.
Égalité.
Personne n'a du pouvoir sur personne.
Fraternité.
Nous encourageons la coopération entre les utilisateurs. Avec un programme où les utilisateurs ont le contrôle du programme, où le programme a le contrôle des utilisateurs.
La seule incitation à innover, c'est qu'on vous copie.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue en Belgique si vous étiez à l'étranger pendant ces quelques petits moments agréables ou pas. En tout cas, voilà, le soleil est de retour. Nous aussi, Source, l'émission du Libre, des Libres de Radio Campus, de la communauté de l'Université Libre de Bruxelles, de 92.1 dans la bande FM, tout ce qui est encore un peu libre dans le monde des logiciels, mais pas que. Et mise en onde les premiers et troisièmes vendredis du mois. Et nous avons le plaisir de vous entretenir jusque 18h, 19h30 par là, de tout ce qu'il se fait, de ce qu'il y a de bon à savoir et à pratiquer, de bonnes pratiques. C'est essentiel, surtout quand on est plein de bonnes résolutions et qu'on est requinqué, chers camarades de micro. Nous avons notre fine équipe de Source, Terry Rock, Tirce et AGO, sont de la party.
Alors, je tiens à dire que le niveau d'ensoleillement ne permet pas d'être requinqué.
D'accord.
Non. Aujourd'hui, ça va.
Ah oui, j'allais dire.
Mais on ne peut pas dire que durant ces deux derniers mois, on a vraiment vécu des vacances plein soleil.
Enfin, c'est le début de l'été, pourquoi tu te plains?
Voilà, bien, c'est vrai que c'est une mise à jour, c'est toujours bon à faire, c'est une mise à jour, mais chaude.
Ouais, mise à jour.
Alors, qui dit rentrée, dit petit nettoyage des ordinateurs, petit rafraîchissement.
Tout à fait, chers auditeurs, chers auditrices, notamment des mises à jour, pourquoi? Bah parce que le nouveau Debian est sorti.
Ouais, oh, voilà.
Attaque forte.
Attaque comme ça, c'est beau.
Paf. Pourquoi pas?
Il s'appelle comment?
Bullseye.
Ah, c'est ça.
Eye. Bullseye. Mm-hmm. Œil de bulle. Et pour rappel, donc, pour ceux qui ne savent pas ou celles qui ne savent pas, je pense que les noms de toutes les versions de Debian se basent sur le film Toy Story, je crois.
C'est ça.
Ouais, c'est un personnage de Toy Story.
C'est, voilà, ils choisissent des noms de personnages. Mais donc voilà, Debian Buster est maintenant, donc c'était la version 10, est maintenant remplacée par Debian Bullseye, qui est la version 11. Et je ne sais pas du tout le nom de la prochaine version. Tiens, c'est un nom bizarre, Moukmouch.
On
va rester sur celle qui vient de sortir.
Oui.
Et pour rassurer, Debian Buster n'est pas à mettre aux oubliettes.
Pas du tout, non, parce que... Non,
encore
non.
3 ans de mise à jour garantie.
Voilà, hein. Pas de panique, c'est pas parce qu'il y a du nouveau qui sort dans la grande famille Debian qu'il faut tout de suite se mettre au pas et se mettre à jour. Non.
Mais c'est toujours une petite fête quand ça sort, parce que le motto de Debian, c'est « ça sort quand c'est prêt ». Et donc on connaît la date plus ou moins à l'avance, mais ça me prend du temps, quoi.
Bah typiquement, là, la date initialement prévue était en mai 2021. Ah. Il y a eu un petit retard parce qu'il restait un gros bug dans l'installateur de Debian. Et ils ont retardé jusqu'au moment où c'était réglé.
Voilà.
Waouh.
Et je disais dans le petit résumé de présentation de Bullseye que donc il y a une branche de Debian dédiée au monde médical. À prendre ou à rappeler, c'est que oui, effectivement, le Debian Med.
Ah ouais.
Qui oui, c'est il y a toute une série d'outils. À l'attention du corps médical pour la gestion éventuellement de patientèle, mais surtout pour tout ce qui est au niveau de la recherche. Et là, ils ont mis un coup sur, évidemment, l'actualité mondiale planétaire. Il y a toute une série de nouveaux logiciels qui sont dédiés à la traque du Covid en molécules 3D et autres petites fioritures. N'étant que juste un humble technicien de radio, je ne connais pas assez le domaine médical, mais je l'ai lu. Je sais que je l'ai lu et c'est pas du tout une fake news.
Oh. Voilà. Tu nous mettras trois fois de la vaseline autour des micros pour chasser ces jeux de mots.
Qu'est-ce que tu fais avec un micro et de la vaseline?
On est vendredi, d'accord, news, d'accord. Ah, ça le prévu vendredi de rentrée, donc voilà, chers auditeurs, chers auditrices, sachez qu'il est d'un petit peu de tradition que le vendredi, tout est permis d'être dit, mais pas
et
nécessairement
vendredi
fait.
Vendredi commence quelque part, jeudi vers 2h de l'après-midi pour nous, et se termine samedi vers 10h voilà. Chez nous.
De toute façon, le temps est relatif, alors bon...
Voilà pour le, mais d'autres anniversaires alors.
Ah bah, continuons dans les petites fêtes. On a des anniversaires à festoyer. Linux FR, le fameux site communautaire francophone autour de Linux, fête ses 23 ans.
Quand il fête
cette année. En 2021.
Juillet ou août. C'est là. D'accord.
Août. Oui, on a un peu de retard parce
Linux
que...
FR 23 ans déjà. Mamma mia.
Wow. Mais du coup. Moi, j'aimerais plutôt sur... Linux FR, du coup, c'est... c'est vrai que c'est... Elle est un poids lourd dans le truc.
C'est un forum, c'est ça, non?
C'est un forum plus news sur tout ce qui tourne autour du libre. Mm-hmm. Ils traduisent régulièrement des articles, etc. Et tu peux avoir en fait ton propre journal personnel, enfin ton blog, mais c'était assez nouveau à l'époque.
Ah oui, comme
il y a eu un âge d'or, hein, évidemment, comme pour tout, vers 2000-2010.
Donc en gros, il faut différencier les dépêches des journaux. Les journaux sont écrits individuellement, les dépêches sont écrites en communauté, même si parfois des journaux peuvent être écrits en communauté. Les dépêches peuvent être aussi être écrites en communauté, mais c'est plus souvent mono-auteur.
Individuel, mono-auteur.
C'est
pas mal ça, je suis un mono-auteur.
Et pour la date exacte, c'était le 28 juin 2021, c'est ça que je recherchais désespérément. Donc, il y a 23 ans. Et ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, tu peux suivre pas mal d'actualités de gros projets open source, mais qui sont rédigés en français. Donc pour ceux où l'anglais est encore...
Oh yes, for once, it's not in English. Oui, you can read and discuss with people in French online.
Mais parfois aussi avoir des résumés. Parce que ça t'appelle le changelog de, si je prends par exemple la librairie Qt, donc Qt est une librairie qui permet de dessiner, de mettre des thèmes sur des fenêtres, très grossièrement et en résumant très vite.
Oui, c'est très grossièrement.
Mais on parle bien de thèmes sur des fenêtres sur le bureau de l'ordinateur, hein, pas des thèmes sur les fenêtres... comme la belle banderole de Radio Campus sur la fenêtre de Radio Campus.
Ah non, et pas des thèmes sur Windows, tu vois, ça n'a rien à voir. Je vois Thierry qui pleure en face.
Et du coup, je disais que parfois, lire des changelogs de certains projets open source est un peu indigeste. Et souvent, Linux FR nous fait des petits billets d'articles qui facilitent un peu la lecture et qui remet un peu en avant les gros points importants à connaître.
Alors, cher ami, auditeur, auditrice, si tu ne le sais pas, un changelog. Qu'est-ce qu'un changelog?
Alors, c'est en deux mots, journal de changement.
Journal de changement.
Donc, c'est là où il y a toutes les modifications depuis la dernière version.
C'est donc un document rédigé par les gens qui fabriquent et qui écrivent le logiciel et qui accompagne chaque release, histoire de rajouter un autre nouveau mot.
Délivrable, comme diraient les Québécois.
Comment ils disent?
Délivrable, je dirais.
Ah oui, chaque nouveau
mot français, délivrable. Hein, c'est pas eux qui l'ont inventé.
Ouais, c'est vrai. Donc chaque nouvelle version, petite, moyenne ou grande, est souvent, surtout les grandes, accompagnée de journal des changements, pour tenir au courant de... Ah ben écoute... Si tu utilisais telle librairie, ah ben ça va plus marcher. Voilà, par exemple.
Oui, ou bien on a fait un tout nouveau truc super génial et c'est trop cool.
Ah oui, les nouvelles features, les nouvelles fonctionnalités sont aussi reprises dans les changelogs. Et donc tous les logiciels libres en général, enfin même aussi les logiciels non libres, il faut reconnaître, sont accompagnés de journaux des modifications ou des changements ou des adaptations.
Et donc ça permet de suivre le suivi.
Bah oui.
Et surtout, est-ce qu'on remonte fort loin en arrière Vous essayez pour avoir des informations sur la dernière ou l'avant-dernière version.
Par rapport à la dernière version, en fait. Parce que ce que tu veux savoir, c'est est-ce qu'il y a un truc qui va se casser la gueule quand tu vas l'installer. Toi, t'avais une... ou qui va être plus, qui va être supprimé. Ils peuvent retirer aussi des fonctionnalités. Et donc, tu as envie de savoir si, dans ton environnement, donc dans ton contexte à toi, est-ce que telle fonctionnalité est toujours maintenue et donc, ou bien est-ce qu'il y a un bug connu aussi. Ils mettent aussi les bugs connus parce qu'ils n'ont pas eu le temps de la traiter, ils le feront plus tard. Donc, c'est ça que tu vas regarder, quoi.
Typiquement, quand tu fais comme on fait toujours une espèce d'install à l'arrache ou une mise à jour à l'arrache, et puis qu'on se dit merde, mais ça marche pas, et puis qu'on se demande pourquoi, et puis qu'après on tombe sur le changelog, et puis qu'on dit ah merde, en fait, oui, c'était écrit que ça allait pas marcher.
C'est ça.
Zut, j'aurais dû lire le changelog avant.
Et en général, si t'es loin, si t'es un mauvais élève et que tu n'as pas fait tes mises à jour toutes les semaines, par exemple, et que tu es loin en arrière dans les mises à jour, eh ben, tu n'as qu'à regarder tous les changelogs depuis ta version obsolète vers la toute dernière. Tu vas faire 10 changelogs, ce qui va prendre longtemps, tu vois. Mais bon, ça marche aussi, quoi. C'est pour ça qu'ils vont se baser vraiment sur la dernière version.
Bon, faut reconnaître que c'est pas une des littératures les plus passionnantes.
Non.
Faut reconnaître aussi que bon, bah, quand on a un usage personnel de son ordinateur et qu'on n'a pas vraiment de gros enjeux ou de grosses dépendances vis-à-vis des logiciels métiers ou quoi ou qu'est-ce, bah, c'est pas très grave si on lit pas les changements de modification. Parfois, quand on maintient les serveurs, c'est toujours plus prudent.
Mais ceci dit, c'est un des documents dans un logiciel qui sont souvent même négligés. Et pourtant, ils sont primordiaux pour mettre en valeur en fait, le logiciel. Mm-hmm. Puisque c'est là que tu vas mettre ta dernière fonctionnalité. Et du coup, quand tu es un utilisateur du logiciel libre et que tu peux écrire en anglais, parce qu'ils sont en anglais, les changelogs, la plupart du temps, eh ben, c'est une valeur intéressante, tu vois. Si tu sais faire ça, eh ben, c'est cool aussi.
Ouais.
Il n'y a pas besoin de savoir coder, il suffit de savoir retracer quelles sont les dernières modifications, etc. Et de parler au mainteneur du projet et voir comment améliorer ça, tu vois.
Les geeks parlent aux geeks.
Non, mais c'est un truc. Je pense par exemple à GitLab qui est.
Oui, mais bon, on essaie d'expliquer des mécanismes qui se trouvent au sein même des logiciels, des jolis libres.
Ah oui, on l'a aujourd'hui.
Tu vas voir des trucs grand public, enfin grand public dans le sens où c'est des monstres, enfin des logiciels vraiment en place depuis longtemps, comme GitLab, Firefox, enfin tous les trucs de Mozilla. Il y a vraiment un effort qui est fait pour mettre en valeur les modifications qui ont été apportées. Parce que c'est une vitrine, en fait. Enfin, ça devient une vitrine.
C'est leur costume d'apparat. Mais oui, mais bon, voilà, c'était juste pour faire un petit rappel de ce côté très documenté qui existe aussi dans le monde du logiciel libre. Beaucoup plus documenté que l'on ne peut l'imaginer tant qu'on ne s'intéresse pas un peu à qui sont ces gens qui fabriquent ces logiciels qu'on utilise au quotidien, comment font-ils et quelles sont les informations qu'on peut découvrir quand on s'y intéresse. Bah, y en a beaucoup et les changelogs en font partie.
Voilà, ouais, donc tout ça pour souffler les bugies du gâteau Linux.fr.
On en était là,
c'est vrai. Hein
et on continue à souffler des bugies parce qu'il y a eu les 30 ans de Linux.
Linux, le kernel, le noyau, le truc qui fait...
Boum.
Et ça, c'était le 25 août 1991, où Linus Torvald envoyait son petit mail sur Usenet, sur « Hey, je suis en train de faire un petit kernel, c'est un petit projet, tranquille. »
Ouais, c'est rien de vraiment important, il disait « Ça ne va pas changer la face du monde » ou je sais plus quoi, mais il dit vraiment un truc dans le genre, et 30 ans plus tard... Ah.
Une 30e bougie à souffler.
Ouais, et plus de la moitié d'Internet, et même des petits robots embarqués jusque Mars embarquent un kernel Linux.
Quand votre cœur fait boum. Hein. Non, on va pas mettre du Charles Trenet à cette heure-ci quand même. Mais ouais,
pourquoi pas.
Et c'est donc cette petite façon de parler, c'est un euphémisme, mais ce bout de code que l'on retrouve un peu partout alors.
Bout de code, je ne sais pas combien de dizaines de milliers de lignes.
Dans les millions.
Ça dépend en fait de combien de pilotes on embarque dedans.
Bah, disons...
Alors, le noyau Linux fait plusieurs millions de lignes de code. Hein.
C'est ça.
Mmh. Mais quand on fait une mise à jour d'un ordinateur qui a déjà été libéré et qu'il y a une nouvelle image Linux qui apparaît, donc il y a une mise à jour au niveau du noyau, du kernel pur, je me rends compte que je télécharge quelque chose qui est gros comme 35-40 mégas, c'est possible ?
Mmh. C'est même plus que ça. Ben.
Oui, ben, y a les headers, y a les images, etc. Mais...
Non, c'est pas si gros que ça, le kernel en soi.
Il est bien compressé, d'accord. De 1. Enfin, au téléchargement.
En fait, il a un gros avantage, c'est que le kernel est dit dynamique, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de... c'est pas un monokernel. Alors, je vais essayer de m'expliquer. Un monokernel, c'est un...
C'est comme un monohauteur ou pas?
C'est comme un monokini, non?
C'est un petit binaire qui va se charger donc une fois que l'ordinateur démarre et qu'il a passé son check matériel, qui est souvent réalisé par l'UEFI ou le BIOS ou l'U-Boot en fonction de quelle architecture on se trouve. Il doit démarrer sur un amorceur de démarrage. En majorité, on va démarrer sur Grub et ensuite Grub va démarrer sur un binaire. On a souvent tendance à appeler, dans notre cas, le kernel. Et c'est un petit bout de binaire en assembleur qui va essayer de retrouver tous les périphériques, de monter le disque dur, etc. etc.
Et d'activer la souris.
Par exemple.
Aussi.
Plus tard.
Mais du coup, dans un monokernel, on va embarquer tous les drivers en un seul blob binaire. Et donc, ça peut être assez gros. Si on prend par exemple le cas de Windows, pour la partie de démarrage, fonctionne comme ça en monokernel. C'est-à-dire que le kernel n'a pas la capacité de charger dynamiquement des nouveaux drivers pendant la phase de démarrage. Je précise bien.
Oui.
Oui, et puis après, il élimine les drivers dont tu n'as plus besoin en fonction du matériel qui est installé dans la machine.
Alors que Linux, lui, il va charger dynamiquement les différents drivers en fonction de ce qu'il a besoin et de ce qu'il trouve. C'est pour ça qu'il a une série de drivers minimum pour pouvoir se lancer, mais une fois qu'il a démarré, qu'il a par exemple trouvé le disque dur et du coup trouvé le file system, bah, il peut faire appel à d'autres fichiers qui vont lui donner d'autres drivers pour continuer la phase de démarrage.
Mmh.
Les piloter, la carte graphique, la carte son, la souris.
La caméra, pour vous expliquer. Mais c'est vrai, la caméra, par exemple, typiquement, c'est un des trucs qui va changer.
Mais en fin de démarrage, pas en...
À la fin, tu vois, c'est tout à la fin.
Et du coup, comme il va loader dynamiquement ses différents drivers, bah, il n'a pas besoin de tout embarquer en lui, il peut être assez petit.
Quand votre cœur fait boum,
il est content.
Pas.
On est bien d'accord que quand on parle de kernel et de driver, en fait, c'est un ensemble de fichiers qui se trouvent sur vos disques durs. C'est pas des choses magiques qui sont téléchargées du multivers. C'est juste des bouts de code et de librairie qui se trouvent. Je pense que je ne sais plus dans quel chemin ça se trouve, mais sans genre var, lib, cher, je ne sais pas quoi. Et une partie se trouve aussi dans slash boot, si je me souviens bien. Et voilà, et donc c'est bêtement une histoire de je vais chercher des morceaux de fichiers dont j'ai besoin pour faire fonctionner du matériel. Ça, c'est ce que fait le kernel avec ses millions de lignes de code.
Ouais. Et comment se comporte-t-il quand il est face à du matériel dont le pilote n'a pas été libéré encore ?
Bah, il y a souvent.
Ça existe, hein ?
Il y a deux possibilités. Soit il n'y a pas.
Ouais.
Soit il y a un blob binaire propriétaire.
Ouais. Mais il y a aussi. Allez, je pense, peut-être que je me trompe, mais je crois que c'est comme ça. Il y a aussi une espèce de notion de fallback. Dans le sens, enfin, de par défaut. Je détecte un truc. Si je connais un pilote libre qui permet de faire fonctionner pleinement ce truc, ben je l'utilise. Si je ne connais pas de pilote libre, ben j'utilise un pilote propriétaire parce qu'on me l'aura, on m'aura autorisé à l'utiliser. Oui, ça, c'est l'utilisateur qui choisit d'utiliser ou pas des pilotes propriétaires.
On me l'aura fourni. Quoi,
ou bien je prends un truc basique qui va faire le minimum. Je pense, à mon avis, c'est un peu le cas pour les cartes son ou les cartes graphiques.
Les cartes graphiques, par exemple, il y a une autre notion, enfin, il y a un autre concept qui est assez important. C'est, il y a beaucoup de gens qui ont, par exemple, Nvidia comme carte graphique. Et le problème, c'est que pendant tout un temps, ça marchait mal, voire, c'était la galère et tout. Et plusieurs équipes, je sais pas si ça a été fait en partenariat avec Nvidia ou quoi, mais il y a plusieurs équipes qui se sont mis à bosser pour faire un driver libre qui s'appelle Nouveau.
Ouais.
Ça date d'il y a environ 10 ans, hein. c'est pas nouveau justement, mais du coup.
Oui, ils ont.
Mais du coup, il y a cette volonté de créer aussi quand ça marche pas bien, d'essayer de étudier comment le binaire se comporte et essayer d'en réécrire le truc mais libre. Là, ça s'appelle du rétro-engineering.
Et pour revenir avec les drivers Nvidia, c'est toujours la catastrophe. S'il vous plaît, si vous voulez être sur Linux, prenez pas Nvidia. Vous aider grandement la vie. Parce qu'on reprend le driver libre nouveau de Nvidia, y a tout un pan de ce qu'on appelle l'accélération graphique qui n'est pas bien géré. Mmh. Et ça a quoi comme conséquence? Typiquement, quand vous regardez des vidéos, ça peut être saccadé. Quand vous voulez jouer sur Linux, ça peut être saccadé. Alors que si vous utiliserez le driver propriétaire Nvidia, fourni par Nvidia, qui fonctionne, pof moyen, mais quand il fonctionne, fonctionne, n'aura pas cette expérience de saccade.
Mais donc si on ne peut pas prendre du Nvidia, on a droit à quoi?
Il te reste Intel et AMD, il me semble.
AMD a fait énormément d'efforts. Donc AMD, les cartes graphiques Radeon, ils ont fait énormément d'efforts pour intégrer leur driver dans le kernel directement en mode open source.
Ah, c'est gentil ça.
Ça c'est classe quand même. Oui. Voilà. Alors là, il n'y a plus d'excuses pour rester sur d'un ordinateur compote.
Et je ne sais pas si vous vous souvenez de ce petit droit d'honneur que Linus Serval faisait à l'intention de Nvidia.
Oui, j'ai un vague souvenir de cette histoire de doigt d'honneur que Linus.
En réalité, pas une conférence de presse, un truc dans le genre. Et
en fait, ça revient d'une grosse bataille parce que dans le kernel, ils ont implémenté une nouvelle manière de gérer l'affichage dès le démarrage des écrans. Et juste Nvidia fait non, je vais pas le supporter. Et là, t'as Linus fait ouais, d'accord, mais. C'est une nouvelle API, il faudrait que vous y passiez tôt ou tard. Et c'est d'où le fuck d'Nvidia.
C'est ça.
Entre autres de ça.
Et quel est l'intérêt, une méta-question, dirais-je, de ma part. Quel est l'intérêt de maintenir un pilote dans le giron du propriétaireisme, de la propriété intellectuelle d'une boîte, plutôt que de le libérer? Parce que d'autres boîtes le font. Il y a des pilotes d'imprimantes qui sont, je pense à HP. Y a pas de souci. Enfin, c'est juste du code pour qu'une machine puisse discuter avec un système d'exploitation. Mais il y a quand même d'autres boîtes qui disent non, on veut pas mettre ça dans le domaine public. Qu'est-ce que vous imaginez comme Non, allez, on la repose dans 15 jours.
Non, mais c'est une vraie question. Mais c'est une question, je pense, c'est presque un problème humain, quoi.
Et à plusieurs côtés, t'as le secret industriel. En fait, en ne fournissant pas le code source de leur driver, ils permettent aussi d'offusquer la manière que fonctionne la carte. Et je crois que c'est l'argument le plus pertinent qui puisse sortir. L'autre, c'est malgré tout, en fait, là, on est entre personnes averties du monde des logiciels libres et de toutes les libertés qu'elles nous offrent, et certaines qu'on devrait respecter, et nos auditeurs aussi, mais c'est un noyau qui est assez faible, en réalité. Pour la plupart des gens, open source, ça veut juste dire gratuit. Alors, et le logiciel veut juste dire gratuit. Et il n'y a même pas déjà la réflexion de comprendre la différence entre open source et logiciel libre. Et après, il y a encore, vraiment, si on s'étend, on regarde toute la planète, Bah, la part de propriétaire versus le logiciel un peu ouvert est assez faible. Mmh. Et dans les équipes d'ingénieurs, t'as encore cette mentalité-là qui est pourquoi on libérerait notre travail.
Oui, oui, voilà.
Et dans les entreprises qui sont en mode mais c'est du code, c'est de la propriété intellectuelle, pourquoi on l'offrirait à la communauté?
Oui, oui. De fait, voilà, donc pour avoir accès au code source d'un pilote, enfin, pour ne pas retomber dans la vieille colère historique ancestrale de monsieur qui fait notre générique. Mais c'est le fait que je pense aux imprimantes Brother, par exemple, hein, pour ne pas citer de marque, mais pour des auditeurs, auditrices qui nous écouteraient, qui ont du Linux, qui disent merde, mon imprimante Brother ne marche pas. Parce qu'il n'y a pas un pilote, il n'est pas dans le noyau, il n'est pas reconnu automatiquement comme si c'était une imprimante HP. Et bien pourtant, quand même, chez Brother.com, ils ont des pilotes pour les systèmes GNU Linux 32-64 bits, mais il faut aller le chercher chez eux. Mmh. Et là, je me disais, ah, chouette, comme ça, eux au moins peuvent faire une petite compta et de savoir qu'il y a de plus en plus de gens qui ont, avec des ordis GNU Linux, qui vont chercher des pilotes chez eux. C'était ma petite touche d'optimisme.
C'est ce genre de truc, ça peut tenir à des détails rigolos, dans le sens où, si au sein d'une entreprise X, en fait, la plupart des ingénieurs ou des gens qui développent les lignes de code nécessaires à faire fonctionner du matériel sont des gens qui kiffent Linux, bah, ils vont répondre au management en faisant les logiciels propriétaires qu'on leur demande, mais ils vont aussi probablement sur le coin de la table faire la version Linux, parce qu'ils kiffent Linux. Ça peut tenir à ça, le fait qu'il y ait une disponibilité de logiciels pilotes ou de fonctionnalités accessibles dans le monde de Linux, ça peut tenir à ça.
Ouais.
C'est juste parce que les gens qui y travaillent aiment Linux. Et que l'entreprise ne leur interdit pas de le faire, par exemple.
Ah ouais, voilà. Toutes ces conditions à une belle liberté.
J'ai encore
liberté de faire une petite pause ou t'es encore vas-y.
J'en ai pour 2 minutes, ça devrait.
Même 2 minutes 30.
Ouais. Mais c'est pour juste enfoncer un clou dans le cercueil de la propriété intellectuelle. Et du petit coup, les ingénieurs connaissent Linux, du coup ils font un peu attention. Je vais prendre le coup récemment. J'ai dû faire des démarches bancaires. Et sur le site de la banque, il me disait « Ah, mais comme vous n'êtes pas client, vous pouvez créer votre compte en ligne. » Je fais « Ah, c'est cool. Veuillez mettre votre carte d'identité dans le lecteur. » Tu fais « Ah, c'est chouette. » Et après, tu te rends compte que l'outil qui permet de lire la carte d'identité n'est pas celui officiel du gouvernement, mais d'une autre société, et qui juste ne supporte pas Linux.
Mmh.
Alors, ça va même plus loin que ça. Ça ne fait pas que ne pas supporter Linux, ça ne supporte pas Linux, ni Firefox. Et là, tu te fais « What ?» En fait, la seule combinaison fonctionnelle qui marche, c'est Chrome plus Windows. Et ça tient à pas grand-chose, parce qu'il faudrait pas beaucoup de travail pour que ce soit compatible tous les navigateurs. Mais par une méconnaissance ou une non-volonté de s'ouvrir, ça n'existe pas.
Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il fait encore la musique ici? Oh, c'est magique ça.
C'est la pause qu'il veut.
Oui, tout à fait. Ah, si tilde, voilà, ok. C'est, oui, je ferai aussi une petite allusion sur le opt-in et le opt-out de la lecture automatique. Bon, chez YouTube, on connaît Méchart et on ne le sait pas encore. Voilà, mais c'est... à ce moment-là... Je peux effectivement le passer. C'est vrai que je ne t'avais pas suggéré de mettre le petit câble mini jack qui se trouve dans notre studio, que tu peux connecter directement à ton ordi et me faire un petit clin d'œil comme ça. Et alors je passe directement.
And I'm very happy to say that it's the exception rather than the rule. And I'm also happy to very publicly point out that NVIDIA has been one of the worst trouble spots we've had with hardware manufacturers. And that is really sad because NVIDIA tries to sell chips, a lot of chips, into the Android market. And NVIDIA has been the single worst company we've ever dealt with. So NVIDIA, fuck you.
Thank you, some friends there.
Voilà, et au moins... Sur Invidious, il n'y a pas de lecture automatique. Ouais, si elle est, par défaut, elle est désactivée. Oui, voilà, donc fuck you Nvidia, fuck you.
Donc là, on entendait Linus Torvald.
Mm-hmm. Ouais. Je ne pensais pas qu'il allait mettre comme ça.
Non, mais c'est vrai, c'est marrant parce que quand même, je veux dire, Linus est quand même le mainteneur principal de ce noyau, donc du coup, bah, depuis 30 ans. Et il vient quand même de dire que Nvidia est la pire entreprise avec laquelle
ils
se doivent de travailler. Enfin, faut bien comprendre que fabriquer un noyau, c'est essayer aussi de discuter avec des constructeurs de matériel, quel que soit le matériel, pour essayer de trouver des espèces de terrains d'entente pour faire fonctionner les choses avec des logiciels libres comme le noyau Linux et tout le reste. Et voilà. Et parfois, il y a une entreprise ou l'autre qui dit « Nous, on ne veut pas. On vous... » Et ben, du coup, voilà, ça doit faire du bien, à mon avis. Alors, j'aurais été à sa place, j'aurais kiffé le moment « Fuck you ». C'est genre « Ah, ça fait plaisir à dire une fois comme ça, là, devant la caméra. Pouf !» Ouais, comme ça, c'est fait.
Il sait qu'il va avoir des répercussions derrière, mais ouais, c'est clair.
Ouais, mais bon, parfois, il y a un moment où, en termes de discussion ou de négociation, c'est terrible. Mais parfois, il faut... C'est cette envie de monter d'un cran, là, tu vois. T'as beau être diplomate, t'as beau discuter sur des mailing lists, t'as beau essayer d'imposer ton point de vue ou de trouver des arguments valables pour défendre ton point de vue. Mais il y a des moments où t'as envie de dire, mais allez vous faire foutre, et puis c'est tout, quoi.
Et surtout, le poids... Et la force de frappe, à ce moment-là, pour vous remettre un peu dans le contexte, je ne sais plus c'était en quelle année.
Il parlait déjà d'Android, hein, puisque Nvidia avait des vues sur...
Mais on ne parlait pas encore de crypto-monnaie et d'utiliser les cartes graphiques...
Comme... Oui, ça, ils ont trouvé un autre marché.
D'utiliser les cartes graphiques comme accélératrice.
Ouais.
C'est au moins 2012, donc effectivement...
Bon, voilà, ça commençait, mais ce n'était pas encore...
C'était il y a presque 10.
Et oui. Et ça a été aussi, mais enfin, plus récemment, un argument envers les Nvidia qui devait mettre à disposition des moyens pour que le kernel puisse bénéficier de cette accélération sans devoir utiliser le blob Nvidia. Mm-hmm. Mais ça s'est passé au moment où tu as eu un rapport de force financier.
Ah oui, oui. J'en ai pas vu grand chose du coup. Les rapports de force financier, c'est pas mon fort.
Eh bien alors, il y a la librecoopération.org. Est-ce que vous avez chez vous ce petit souci aussi pour joindre ce site magique que j'avais mis dans notre salon source sur la belle plateforme Element? J'essaye de l'ouvrir ici et bizarrement, ça ne marche pas parce que là, on aurait pu se mettre...
Au pire, on regarde ça après la pause.
Ah oui, voilà, mais parce qu'à partir de ce site de librecoopération.org, ça pointait vers un bel endroit qui s'appelle dig.ccmixer et qui est un repère de musique d'un peu dingo, de l'instrumental music for film and video, de la free music for commercial project et de la music for video games. Alors, dans lequel de ces trois dossier, voulez-vous que j'aille chercher une petite surprise? Sinon, je...
Oh là là. Bah, moi, quand tu dis video games, je pense à Jeuvidea, qui est aussi un des projets d'essayer d'amener une communauté féminine à travailler autour du monde du logiciel libre et des jeux vidéo.
Ouais.
Donc voilà.
Coucou Natacha.
Et pas que.
Petite singularité.
Et pas que. Mais oui.
Et du quoi, du coup?
Oui. Godot et tout ça. Donc ouais, pourquoi pas.
Allez, on va voir du côté de la musique vidéo. Eh ben, j'avais effectivement déjà un peu checké là-dedans aussi. Je crois que si mes souvenirs sont bons, j'avais trouvé que ce morceau était assez pas mal. Attends, c'est Time Being, Face Being, Secret Spirit. Voilà, Secret Spirit, Video Games. Hein, rentre dans l'ambiance. Hein. Chargez bien votre joystick et on est parti.
Recently, in Minnesota, a white police officer killed a black man named George Floyd by kneeling on his neck for almost 9 minutes, ignoring his repeated cries that he was unable to breathe. Unable to breathe. Unable to breathe. Breathe. Breathe.
Just breathe. Just breathe. Bounce when you hit them cops coming. Jump, dodge, push, never stop, youngin'. Better move, boy, when you see them lights coming. Just breathe. Just breathe, bounce, look when you hear them cops coming. Jump, dodge, push, never stop, youngin'. Better move, boy, when you see them lights coming. Just breathe, just breathe, just breathe.
Recently in Minnesota, a white police officer killed a black man named George Floyd by kneeling on his neck for almost 9 minutes, ignoring his repeated cries that he was unable to breathe. Unable to breathe. Unable to breathe. Breathe. Two more police officers helped pin Floyd down while a fourth Asian officer stood guard and didn't intervene. Floyd is not alone. Already this year, police officers killed Drayson Reed in Indiana and Tony McDade in Florida in May, and Breonna Taylor in Kentucky in March, while an ex-detective killed Ahmaud Arbery in Georgia in February. Overwhelmingly, the police haven't faced consequences for murdering black people, even when there's been extensive media coverage. Imagine how many more incidents go unrecorded or unseen. Imagine how many more incidents go unrecorded or unseen. Unable to breathe. Unable to breathe. Breathe.
Just breathe. Just breathe. Bounce when you hear them cops coming. Jump, dodge, push, never stop, youngin'. Better move, boy, when you see them lights coming. Just breathe. Just breathe, bounce, look when you hear them cops coming. Jump, dodge, push, never stop, youngin'. Better move, boy, when you see them lights coming. Just breathe, just breathe.
This is a terrifying reality that the black people I care about live with every day. You might be thinking, we are also a minority. We've managed to come to America with nothing and built good lives for ourselves, despite discrimination. So why can't they? Can't they? Can't they? For the most part, when we walk down the street, people do not view us as a threat. 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 Unable to breathe. Unable to breathe. Breathe. Breathe.
Just breathe. Just breathe, bounce when you hear them cops coming. Jump, dodge, push, never stop, youngin'. Better move, boy, when you see them lights coming. Just breathe, bounce. Look when you hear them cops coming. Jump, dodge, push, never stop, youngin'. Better move, boy, when you see them lights coming. Just breathe, just breathe.
unable to breathe, to breathe, to breathe, to breathe.
Just breathe, just breathe. Bounce when you hear them cops coming. Jump, dodge, push, never stop, youngin'. Better move, boy, when you see them lights coming. Just breathe, bounce. Look when you hear them cops coming. Jump, dodge, push, never stop, youngin'. Better move, boy, when you see them lights coming. Just breathe, just breathe.
Unable to breathe. Unable to breathe, to breathe, to breathe.
No.
Yop là, je vais vite couper notre ami de chez auboutdufil.com parce que lui, il adore enchaîner la musique délicate, libre de droit pour votre vidéo beauté. C'est ce qu'on allait avoir maintenant. Juste avant, c'était Stay With Me de monsieur ou madame Rex Lambo, qui était donc du chill out, down tempo, originaire de Saint-Pétersbourg. Voilà, hein, tout ça est à retrouver sur auboutdufil.com, version chill out. Et avant ça, ça venait donc de chez CC Digger Mixer, là, les... Et c'est musique de jeu, ça
c'est pour chose Creative Commons.
Oui,
ça,
oui, okay. Oui.
C'est Digger pour creuser,
ouais.
Et Mixer pour mélanger, d'accord.
Ouais,
c'est
tout à fait.
Ouais.
Voilà, donc c'est dig.ccmixter.org, et là vous avez accès à tous des compiles. Il y a beaucoup qui vient de qui s'apprennent vers Jamendo. Allez, je veux dire, c'est une plateforme qui rassemble donc le je disais quoi juste avant, donc collaboration libre, mm-hmm. .org qui
ouais,
n'est pas accessible.
Ouais, un truc
okay. Comme ça. Bon, des petites choses dans le genre. Et donc c'est de musique libre de droit, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Il faut juste citer le nom des gens qui ont joué, et c'était tu fermais l'onglet.
Contrôle Shift T.
T'avais commencé.
Contrôle Shift T, ça va rappeler le dernier onglet que t'as fermé.
T'avais commencé par Secret Spirits de Dark Room.
Ouais.
Ensuite, j'imagine que ça, comme c'est une playlist, ça suivait.
Ouais.
Donc t'as fait Precarity de Airtone. Et je ne sais pas si ça a continué, mais. Je ne sais pas combien tu en as fait, c'est ça le problème.
Mais c'est surtout qu'il y avait un morceau que je ne sais pas. Allez, disons que c'est magique, hein, là. Donc là, je vois que j'ai la page, j'ai 2788 morceaux possibles, imaginables. Mais ce que j'apprécie chez auboutdufil.com, bon, c'est qu'il y a un petit texte introductif. Moi, je voulais voir, tiens, qui était le Milky Blue, qui a fait Lights Writing. Et ça me renvoie juste à tous les morceaux que Milky Blue a déjà fait. Et j'aime bien chez auboutdufil.com, c'est qu'il y a quand même une touche d'humanisation qui est de savoir, par exemple, Alex, voilà, il est de Saint-Pétersbourg, il s'appelle Rex Lambo sur Internet, il est passionné de musique électronique, il s'intéresse à tous ces sous-genres et n'hésite pas à faire naviguer des compositions de l'un à l'autre, sans jamais se restreindre, avec l'originalité qui le caractérise, voilà, son titre Stay With Me, paru en mai dernier, ne laisse pas de doute sur l'intelligence artistique de Rex Lambo. Voilà, moi j'aime bien ce genre de commentaires.
Ben
même
en fait,
si je sais que dans 2 minutes j'ai tout oublié.
Dans ton.
C'est pareil pour moi.
Dans Dig CC Mixter, tu as, si tu cliques sur l'artiste, tu as donc effectivement la liste de ses morceaux, etc. Et après, tu as une sorte de petit encadré comme ça, et tu cliques dessus, et là tu tombes sur un truc en bêta encore, mais tu as. Pour Dark Room, par exemple, il est originaire de Los Angeles, je crois.
Ah, chouette, ouais, voilà. Ça, donc, c'est pour le côté people. Il faut un peu le chercher, quoi.
Donc,
tu l'as trouvé.
Je
savais ça, si tu aimais bien ce genre de petites formations sur les gens.
Ah, ben moi, j'adore regarde Freelix, qu'est-ce qu'il a fait comme morceau.
Yes, yes. Sur ces autres, voilà, je pense que tout est dit. On a oublié de citer personne parce que c'est vraiment la moindre des choses qu'on puisse faire pour toutes ces personnes qui ont le chic et le dash de cliquer, ressentir, poster, taguer.
Et en juste... parlant de tout ça,
ouais,
est-ce qu'on n'utiliserait pas l'effet divers pour y arriver?
L'effet divers?
Non.
J'ai compris des chaises écrasées.
Bien. Non, des fées écrasées.
L'effet divers, non, c'est les fées qui vivent en hiver.
Attends, donc tu voulais quoi?
Du coup, c'est joinfaitdivers.org qui est un chouette petit site qui vous explique comment fonctionne tout ce petit réseau d'Activity Pub et qui vous prend main par la main pour les personnes qui ne comprennent pas Activity Pub, leur expliquer assez simplement comment ça marche. Alors, mesdames et messieurs, là, on vient de monter d'un cran dans le multivers.
Il faut que je prenne le tabouret de la régie.
Comment essayer de contextualiser un peu ça pour les auditeurs et les auditrices qui nous prennent au vol, s'il y en a?
Qu'est-ce qu'un fait divers, déjà?
Mais non, alors nous ne sommes pas dans ce genre de fait divers, Tati Denel a écrasé son chat. non.
Et on en était.
Ce sont donc, dans le cadre de allez, on va dire d'une alternative aux énormes silos que sont les Facebook, Twitter, Microsoft, machin, et tous les gros réseaux hyper centralisés, comme on appelle ça, c'est d'essayer de construire des outils qui permettent de faire apparaître comme ça des petits nœuds qui se parlent entre eux. Donc un petit collectif veut mettre en place un logiciel qui permet d'échanger des textes ou des images ou des vidéos ou de la musique. Un autre petit collectif ou une personne seule veut mettre aussi en place son petit serveur qui partage des textes, des images, des vidéos, de la musique ou quoi ou qu'est-ce. Mais que ces différents petits nœuds, ces petits serveurs, ça peut être petit mais ça peut être très gros. Ça dépend de la capacité administrative et technique que les gens qui maintiennent ces nœuds ont dans leurs mains. Mais c'est pouvoir permettre à ces différentes petites instances, multiples, diverses et variées, de discuter entre elles et de ne pas toujours devoir se créer un compte sur l'un ou l'autre de ces différents services. Et donc pour ça, il y a un protocole, donc ActivityPub, qui a été conçu, développé, réfléchi et qui continue à évoluer pour pouvoir permettre des échanges d'informations entre utilisateurs, que ce soit pour parler de vidéos, ou de s'échanger des messages textes, ou de regarder des photos, ou de se partager des photos, ou de se partager des librairies de musique, ou des vidéos, mais que toutes ces personnes puissent quand même, d'une manière ou d'une autre, trouver un moyen de communiquer entre elles sans devoir à chaque fois aller créer un compte sur la plateforme vidéo de Monsieur Machin, ou sur la plateforme de photos de Madame Bidule, et de pouvoir comme ça aller tisser du lien au travers de ce qu'on appelle donc la Fédiverse,
en gros ça vient de univers et fédération.
Voilà.
Donc ça veut dire c'est la fédération de plusieurs univers.
Voilà.
Et par univers on entend en fait par exemple un Peertube qui permet de regarder des vidéos, un Mastodon qui est un peu comme, enfin c'est du microblogging, donc un peu comme Twitter, etc. Et par exemple, comme tu disais, ActivityPub, ça rend possible, enfin, comment dire, imaginons que on est sur YouTube et on aimerait commenter depuis son compte Twitter et même partager une vidéo. Et ben avec le Fediverse, c'est possible, t'es sur Mastodon. Et tu peux commenter et repartager une vidéo qui est sur Peertube, et ton commentaire apparaîtra sous la vidéo, alors même que tu n'as pas créé de compte sur le serveur qui gère le Peertube. Donc tu restes sur ton Mastodon, et pourtant tu as accès à tout ça.
Oh, c'est génial, donc il ne faut pas avoir 36 000 programmes de différentes 36 000 plateformes.
Non. Et donc, pour essayer de comprendre, parce que c'est tellement simple d'aller sur YouTube, c'est tellement simple d'aller sur Twitter, parce que tout le monde y est. Mais de comprendre que les alternatives logicielles qui permettent une certaine autonomie, c'est-à-dire que si tu veux mettre en place un truc de microblogging et de discussion ou de partage vidéo, mais aussi que tu veux construire une communauté autour, avec certaines affinités, certains centres d'intérêt, ben tu as la liberté de le faire et de choisir aussi si tu veux t'ouvrir au reste du monde ou pas. Donc t'es pas obligé d'aller sur Twitter ou sur machin. Tu peux aussi avoir une meilleure maîtrise de ces différentes instances qui peuvent exister dans le monde et de te reposer sur la communauté qui gère ces instances, qu'elles soient plus ou moins ouvertes au reste du monde. Mais pour comprendre le multivers ou le fait divers, c'est là où il y a un joli site web qui essaie d'expliquer un peu cette diversité et ses potentiels d'autonomie, de maîtrise de son environnement logiciel, de son réseautage social, hein, on va dire ça comme ça, parce que c'est un peu ça, parce que ce sont des alternatives aux énormes silos d'hypercentralisation. Et pour moi, c'est un énorme sujet d'autonomie numérique. Voilà. Et donc le site, c'est, je ne sais plus, c'est quoi,
joinfaitdivers.org.
Voilà. joinfaitdivers.org.
Alors, de mémoire, il y a même une petite vidéo qui explique ça aussi, sur joinfaitdivers. Ils l'ont pas mis ?
Ils l'ont pas mis.
Ah non, oui, je vois, oui, c'est ce site-là, oui. D'accord. Donc oui, là où ils mettent, donc ça va être effectivement chaque tu vas avoir
service,
une bulle.
Service comme ça.
Ouais, ouais. Tu vas avoir une bulle pour chaque univers, donc chaque service. Mm-hmm. Oui. Je confondais avec l'autre qui est pour Mastodon.
Et du coup, c'est joinfediverse.org. Donc joinfediverse.org. Mmh. Et ça va être, ça se parcourt assez vite, hein. Je crois qu'en 2 minutes vous avez déjà fait le tour. Mais au moins ça permet de mettre des mots sur des concepts qui sont assez compliqués.
J'avais fait le jeu, il y a même, il te demande qu'est-ce que tu aimerais faire. Par exemple, est-ce que tu aimerais regarder des vidéos ou écouter de la musique? Et alors ils te disent, ah mais alors c'est tel service, et puis tu es plutôt quoi comme type de personne ou quoi, et alors ah ce serait plutôt ce type d'instance, et à la fin en fait t'as quasi choisi sur le serveur où tu voudrais aller quoi. Non mais c'était vraiment...
C'est bien, ouais. Ouais. Ah, j'aime bien en plus la formule à la deuxième page, bah, donc c'est un petit jeu, clique, suivre.
C'est pas le même.
C'est pas le même.
Mais attends.
Ah,
en anglais, il le propose, mais pas en français, mais ni en néerlandais.
En français, ouais. Il y avait une version. Ah putain. Oui, attends, je vais trouver.
On ne dit pas gros mots en ligne sur les ondes radio. Il y a des enfants qui, ou des gens sensibles qui écoutent.
Monsieur Fenas, je dis ce que je veux, tout est permis.
Oui, c'est bien, on est vendredi.
Alors, le fait divers est un ensemble d'univers composés de médias sociaux alternatifs qui communiquent entre eux. Et c'est souligné, hein, donc si vous voulez cliquer pour aller un petit peu plus loin, ça veut dire quoi, communiquer entre eux, c'est une chose. Et alors j'aime bien la formule suivante, c'est « ils fonctionnent grâce à des logiciels libres et choisissent d'être sans publicité, virgule, de préserver votre vie privée et ne pas présélectionner le contenu auquel vous avez accès. »
Voilà, oui.
Ben, j'aime bien cette notion de « pas présélectionner ».
Oui, mais ça c'est hallucinant parce que les gens ne se rendent pas compte en fait que la plupart des services en silo, donc les hyper centralisés, en fait il y a derrière ce qu'on appelle les intelligences artificielles.
Oh, pas que. Non.
Non, oui, non, et pas, il y a des humains.
Sur Arte maintenant, il y a les nettoyeurs du web. Ils leur passent, je le regardais un petit peu hier soir, et c'est essentiellement aux Philippines des gens qui sont venus presque à se jeter par la fenêtre parce que ils doivent vraiment voir les vraies photos qui sont postées de n'importe où du monde et qui sont d'une horreur indicible.
Oui, ça, évidemment, si tu veux regarder les choses sur Internet, tu n'as pas le choix. Il y a aussi beaucoup de merde. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que ce sont des logiciels, donc les services hyper centralisés sont des logiciels qui prémâchent un travail par rapport à l'information que vous recevez. Ça, c'est sûr, c'est clair. Dans le monde du fait divers, c'est moins le cas. C'est-à-dire que c'est le choix, c'est votre choix à vous d'aller vers une instance qui correspond plus ou moins à vos affinités,
vos centres éditorial,
vos centres d'intérêt, vos passions, vos sujets favoris de discussion et d'échange, je sais pas. Et donc c'est très différent parce que ces logiciels ne sont pas conçus pour algorithmiquement choisir. C'est-à-dire que c'est vous, humains, qui allez vous intéresser à des nœuds gérés par d'autres humains. Sur les trucs hyper centralisés, en général, c'est les logiciels qui choisissent un peu pour vous le contenu que vous avez devant les yeux.
Juste pour revenir sur ce que je disais, du coup, j'ai été un peu vite dans ce que je disais, mais en gros, ils expliquent, donc le site va t'expliquer un peu comment ça marche, etc. Et à la fin, il va te faire une présélection des instances connues, on va dire.
Oui.
Ce qui est pas mal parce que généralement tu vas tomber sur l'officiel et qui est déjà bien lente et bien surpeuplée et après tu dis ah oui mais ça marche pas. Bah oui mais si tu utilises la plus connue là il t'en donne 2-3 tu vois donc c'est déjà un peu mieux.
Bah ouais, moi je trouve ça intéressant parce que ça reflète tout le
la diversité.
Mais oui, mais divers. Mais aussi tout ce côté un peu inconfortable. C'est-à-dire qu'au lieu de choisir la voie mainstream, comme ça, c'est facile, tout le monde est dessus. En fait, non, dans ce...
Tout le monde est dedans, tu veux dire.
Oui, tout le monde est dedans, mais si tu veux choisir un logiciel libre pour faire fonctionner ton ordinateur, beaucoup de gens vont aller vers Ubuntu, mais quand tu commences à un moment donné à te poser des questions, tu te rends compte qu'il y a moyen de choisir. Et pour choisir, il y a un moment où tu dois te poser des questions sur qu'est-ce que t'aimes. De quoi as-tu besoin ?
Un peu d'introspection.
Bienvenue. Peu d'introspection. Et en fait, c'est ça aussi qu'il y a avec, je trouve, y compris les alternatives en réseau, c'est qu'au lieu de déléguer à, comme ça toute ta recherche personnelle à des algorithmes et des grosses boîtes qui se nourrissent de tes données, en gros, ben ça t'invite à te dire, mais au fond, réellement, qu'est-ce que je veux d'Internet ? C'est quoi mes objectifs ? C'est avec qui j'ai envie de discuter, avec qui j'ai envie de faire réseau, pourquoi j'ai envie de faire réseau.
Ouais, ouais.
Et donc, il y a tout un travail, je trouve, de très, très humain, au fond, et très intéressant, qui est un peu le reflet de... Ouais, de cet exercice, arrête de faire le mouton, pose-toi des questions et choisis.
J'ai juste l'image avant, je pense, c'était déjà arrivé d'aller au resto, d'aller boire un verre avec quelqu'un. Ouais. Et puis, enfin, au resto, c'est plus marrant parce que comme ça, vous avez la carte tous les deux devant les yeux, puis après 25, 30 secondes, enfin, allez, mettons une minute 12 de lecture et de réflexion, hein, tu demandes à l'autre, tiens, et toi, qu'est-ce que tu prends ? Bah, comme toi.
Ah ben c'est marrant, j'allais prendre la même chose.
Oui, tu vois, on est un peu là. Alors que je me dis, bah attends, si tu prends quelque chose de différent, je goûte chez toi et après tu peux goûter chez moi.
Voilà.
Tu vois, mais ce besoin effectivement de conformisme, grégaire, de mouton. Bah.
Du coup, les instances mainstream, c'est les suggestions, c'est ça?
Je pense. Il y a un peu de ça probablement dans le cadre donc toujours du fait divers et des réseaux sociaux un peu libres. Il y a évidemment des instances mainstream, comme on appellera ça. Mais ce qu'il y a, c'est que, ouais, enfin, c'est ça qui est génial aussi avec Internet, c'est que s'il y a des instances qui n'ont pas envie d'être connues,
c'est possible.
Et ben voilà. C'est-à-dire que ce n'est que par le bouche à oreille ou par une invitation que tu vas te retrouver à rejoindre des réseaux de gens. Et alors c'est là où tout le média mainstream va dire c'est des hackers, c'est des pirates, c'est des terroristes, c'est des complotistes, c'est des pédophiles, c'est des gens dégueulasses qui vendent de la drogue. Et en fait non, c'est juste des gens aussi, hein, parce que c'est clair, il y a des trucs dégueulasses, faut pas se voiler la face. Mais c'est aussi des gens qui ont envie d'être tranquilles, ensemble, sur Internet, sans qu'une grosse boîte vienne foutre son nez de merde dans les échanges.
Et donc là, le Internet, on revient vraiment au béaba, c'est des fils de cuivre ou de fibre optique qui relient des serveurs et des ordi entre eux. Internet, c'est d'abord ça,
ouais,
et
ouais,
pas le service qui est dessus, pour lequel les gens, qui est comme navigateur Internet. Moi, j'ai Google.
Ouais.
Ouais, voilà, ce genre de glissement de sens préjudiciable.
C'est même plus loin que ça, hein. Si tu veux en venir à ton avis, ça relie des serveurs entre eux.
Mm-hmm.
Et ta machine est aussi un serveur.
Oui.
Mm-hmm. Et tu peux avoir ton propre réseau social, enfin ton bout de réseau social dans ta cave.
Mm-hmm.
Mais du coup, ce que tu disais sur choisir au final sa communauté, c'est là où le mot social, de réseau social, fait sens.
Oui.
C'est que enfin tu n'es plus chez Silo Trademark là,
oui.
Mais tu es soit chez toi, soit chez tes potes. Par exemple, moi je connais j'ai des amis qui ont fait un serveur, une instance Mastodon pour leur coloc, tu vois,
mm-hmm.
par exemple. Et voilà. Et donc, ouais, tu choisis en fait chez qui tu es et donc chez qui. Comment est gérée la modération, quoi.
Mmh, aussi.
Donc, parce que c'est là tout l'enjeu, en fait, au final. C'est savoir comment tu te protèges et comment tu te protèges en communauté, quoi. Comment tu gères les personnes toxiques, ou etc. Enfin, voilà, tout ce qui va avec...
Tout ce qui va
avec les interactions sociales, quoi. Au final. Mmh. Oui, les spammers, mais ça, c'est à la limite...
C'est
tu peux dire que ce sera géré partout, tu vois, normalement.
Donc voilà, on retient que pour ce site joinfaitdivers.org, c'est une belle explication de ce que vous pouvez trouver dans l'Internet éthique. Toc, sans tic-tac.
Et c'est un peu joli quand même.
Musique. Oui, hein, j'aime bien le...
L'esthétique.
Oui.
Tic-tac.
Allez, je t'en passe une petite pause musicale avant un ou deux de nos derniers sujets, parce qu'il y avait encore quelques petites choses fort sympathiques.
Il y en a encore une trentaine là. Ouais.
On va parler de hack après.
Allez, chouette. Ouais. Come inside a snowflake. C'est pour conjurer le sort. Come inside, monsieur snowflake, monsieur ou madame, je sais pas.
Je vais prendre une bière.
Thank you.
Spaceships from far away, we're already here on the Earth today. Just so small that you wouldn't believe, travel at speeds that we couldn't conceive. That means one could slip right by, undetected to the human eye. Try to catch one, you wouldn't stand a chance, because they're just so small yet so advanced. Oh, tiny spaceships under our noses, just so small we'd never notice. So while we're looking up at the sky, a tiny spaceship can slip right by. Tiny spaceships under our noses, just so small we'd never notice. And while we're looking up at the sky, a tiny spaceship can zip right by. What if tiny spaceships the size of gnats end up getting eaten by hungry bats, or snatched up by a frog's long tongue? The tiny spaceman would be long gone. Lost on a mission is one of the few to study the giants of planet blue. That's me and you. You wanna know why? 'Cause we all the aliens in their eyes. Tiny spaceships under our noses, just so small we never notice. But while we're looking up at the sky, a tiny spaceship can slip right by. Tiny spaceships under our noses, just so small we never notice. But while we're looking up at the sky, a tiny spaceship can slip right by. What if they're from a planet that's cold and gray, in a universe light years away? And even though it sounds like it's very far, what if it's the universe next to ours that makes us neighbors with a space-time fence? If the universe begins right where ours ends, a trillion galaxies and trillions of stars, and somehow they found their way to ours. In tiny spaceships under our noses, just so small we never noticed. And while we're looking up at the sky, a tiny spaceship slipped right by. Tiny spaceships under our noses, just so small we never noticed. And while we're looking up at the sky, a tiny spaceship slipped right by. Tiny spaceships. Tiny spaceships. Tiny spaceships. Tiny spaceships.
Voilà. C'était Hans Hatom avec son morceau Spaceships. Et juste avant, c'était bien Snowflake qui avait proposé de rentrer à l'intérieur. Morceau Come Inside en direct de ccmixter.org/dig/free. Enfin, à l'aise quoi. À l'aise, vraiment à l'aise. Non, mais sans souci. Hein, y a vraiment,
Et du coup, la voix que vous entendez, c'est Fredux. Mm-hmm. Nous avons Ajo, Thiers et moi-même Tyrock. Pour l'émission Source.
Ouais, de rentrée, hein, un peu FM. Encore en mode. Stache donc et tatane, chemise hawaïenne, petite
chaîne d'or qui brille, je danse le mi.
Yes, yes, allez, un petit 14 minutes qui nous reste pour passer l'antenne à What is in the Snowflakes.
Par exemple. Du coup,
j'ai
envie de vous parler d'un sujet, mais je vais faire un petit détour. Du coup, on va faire le petit détour ensemble. On va parler de EICAR. E-I-C-A-R. Je vois pas.
EICAR.
Ouais.
EICAR.
Non.
E-Comicar. E-Comicar, c'est un très beau film.
Ok. Qui est l'acronyme de European Institute for Computer Antivirus Research. avec mon magnifique accent.
Ah oui, le European Institute for Computer Antivirus Research. Here once again.
Et en fait, ces petits gars, ils se sont dit, hey, on va faire une chaîne de caractères qui sera reconnue comme un virus par les antivirus. Comme ça, ça évitera qu'on teste avec des vrais virus sur les ordinateurs. Et ça va être entre autres utilisé par les antivirus. C'est simple.
Mais attends, c'est quoi un antivirus du coup? Parce que moi, je dis non.
Et ça va être aussi utilisé par.
Il n'a pas pu s'empêcher.
Oui.
Mais c'est aussi utilisé par les antispam sur Linux.
Par les antispam, oui.
Voilà. Donc ça ne fait pas qu'antivirus, c'est aussi pour les antispam, et etc. etc. Et je ne sais pas si vous voyez cette belle petite période où certaines personnes doivent se faire scanner un petit QR code pour rentrer dans des endroits. Mmh. Et la chaîne Aïka.
Je me suis arrêté à se faire scanner le cul.
Moi, je m'imaginais se faire scanner, mais du coup, ça passe dans le nez. Comment ça passe?
Il faut surtout pas qu'on change source de jour, d'émission.
On serait tellement hors sujet si on change de jour.
On serait hors limite, surtout.
Oui.
Et du coup, j'en reviens. Parce que, en fait, c'est une. Donc, le petit. Ce qui permet de tester les antivirus et les antispam, etc., c'est juste une chaîne de caractères. Un QR code, c'est juste une chaîne de caractères. Encodée dans un autre format, avec des petits carrés, mais c'est, à la fin, c'est juste une chaîne de caractères.
C'est juste du texte, quoi. C'est
une... Voilà, c'est juste
ouais,
du texte.
Une chaîne de caractères pour les gens qui comprennent pas, qui sont pas geeks, qui coûtent quand même la source et le nom de 2.fm.
Et qui s'accroche depuis une heure et demie.
Une chaîne de caractères, c'est une suite de. Caractères écrits, c'est ce qu'on lit dans les livres en fait. Voilà.
C'est des lettres et des chiffres et des points de ponctuation.
Moi j'appelle ça du texte.
Du texte.
Ouais. Oh. Chaîne de caractères, c'est presque un peu SM. Comme
pour
ça
les geeks, on appelle ça une chaîne de caractères. Ouais.
C'est pas une chaîne qui a du caractère. Ça
non,
n'a
c'est
rien
pas une
à
chaîne,
voir.
Non.
Et du coup, je continue, je finis ma discrétion pour enfin arriver au sujet. Du coup, il y a des petits malins qui se sont dit hey, on va faire des QR codes avec ce texte et on va le faire scanner par.
Le machin qui est détecté comme virus.
Les humains qui nous demandent de le scanner. Et dans la majorité des cas, ça fait planter les terminaux. Parce qu'en fait, souvent, il y a du Windows qui tourne derrière, qui est un antivirus. L'antivirus décode, donc le programme qui lit le QR code décode en chaîne de caractères. L'antivirus voit cette chaîne de caractères, reconnaît que c'est un virus, et du coup, tue le programme.
Et le met en quarantaine. Et du coup. Toi qui voulais savoir si t'allais être mis en quarantaine, c'est le lecteur qui est mis en quarantaine. Et donc c'est le gardien qui se retrouve en prison et il ne touche pas 4000 euros.
Sans passer par la
case de départ.
Alors attends, parce que ça a été tellement vite. Et on a encore pourtant 10 minutes.
Et on peut réexpliquer maintenant plus longtemps.
Ouais.
Donc en gros, tu imprimes ce QR code avec la chaîne de caractères qui est reconnue comme un virus.
Oui, genre tu veux t'imprimer ton Covid pass machin.
Voilà, mais tu imprimes ce QR code là.
Tu fais un, ouais, c'est ça. Au lieu d'imprimer ton vrai QR code, tu imprimes ce QR code là avec la chaîne Aïkar là.
Voilà. Tu vas près de quelqu'un qui, genre un restaurant, qui te demande tiens, il faut qu'on vous scanne votre petit pass sanitaire pour pouvoir rentrer.
C'est ça.
Ah, pas de souci, le voilà.
Ouais.
Le truc, il est lu. Il
par le lecteur de QR code, du bonhomme qui ou de la nana qui te check.
Voilà, par l'appareil. Et l'appareil va décoder cette chaîne, la considérer
virus.
Comme un virus. Et l'antivirus va le mettre va mettre le programme qui permet de lire le QR code en quarantaine sur l'ordinateur.
Oui, sur l'appareil. Hein.
Ouais, okay, mais
attends, mais toi, du coup, est-ce que tu te retrouves en quarantaine, en prison?
Non, stop,
est-ce que
ça,
tu cours?
Ben non, parce que le logiciel plante, en fait, en gros. C'est un peu
non,
comme
mais
si...
est-ce que, tu vois, niveau stop. D'égalité, tu vois.
Mais le problème,
stop.
C'est les.
Ou encore.
Allez.
Parfois.
Le Covid Safety Kit.
Oui.
Il dispose effectivement d'un QR code.
Le Covid Safety Kit ou ticket pas.
Oui.
Okay. C'est bientôt la fin des festivals. Dans le festival, il y a. Oui.
Festival.
Mais c'est parce que il faut qu'il y ait un antivirus aussi dans les téléphones Android avec un bête truc de Google parce que c'est ce qui sert en toute simplicité, en toute gratuité pour pouvoir laisser passer des gens avec leur Covid Safety Kit.
Alors, comme je l'expliquais, c'est bien un QR code, c'est pas un 2DR code.
Ah.
Donc c'est quoi la différence?
C'est pas le robot dans Star Wars, ça, non?
Ouais, ça, ta gueule R2D2. Qu'est-ce Non, mais mesdames et messieurs, en fait, c'est assez chouette. Si vous cherchez comment faire un peu chier, ça marche peut-être pas à tous les coups, mais ça marche quand même. les gens qui scannent les QR codes pour savoir si vous avez votre machin passe, machin bidule, de fait, il y a moyen d'embêter les lecteurs. En leur affichant ce fameux QR code qui est fait pour tester les antivirus ou les anti-malware ou autre, inéluctablement, la personne qui va scanner votre QR code, elle va être équipée d'un ordinateur portable qui tient dans sa main, elle va scanner ce QR code, et puisque ce QR code est une chaîne de caractères qui est faite pour tester les bons fonctionnements des antivirus, ça va déclencher l'antivirus de l'appareil que la personne qui vous scanne a dans la main. Mmh. Et donc, au lieu de vous afficher un beau « Eh, attention, ce QR code n'est pas bon » ou « Ah oui, vous pouvez passer », ça va faire juste « application erreur, veuillez redémarrer le système » ou un truc à la con comme ça. Et donc, on est dans une super situation humaine où le pauvre agent contrôleur quelconque n'a pas la réponse qui lui sera délivrée par la machine, parce que la machine va dire « Je ne peux pas délivrer de réponse. Je suis face à... je sais pas quoi. Ouais. »
Gameplay est tellement génial que je vais te mettre une petite musique de fond comme ça. « Bad Rainbow Exorcisms » de Speck. Hein, voilà. Comme ça, voilà. On peut donc exorciser les lecteurs de QR code en leur faisant sortir de leur corps. Et... joyeux partage. Ouais, allez, une petite dernière courte avant de se... J'ai juste envie de faire un petit rappel sur la notion de opt-out et de opt-in.
Celle de Arte ou celle de YouTube ?
Celle de Arte.
C'est une expérience...
c'est du vécu, ça coûte cher, 800 balles, boum, parce que...
Avez-vous une petite expérience traumatisante avec Arte ?
Ouais, très 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 très, parce que j'ai... trouver très facilement sur arte.tv en grand écran la possibilité d'activer au besoin, si on vit, la lecture automatique de leurs documentaires, films, séries, etc. Par contre, sur petit écran, leur application Arte, c'est plus difficile à décoder, à trouver ce petit interrupteur qui permet à ce moment-là de désactiver la lecture automatique. Surtout quand, par mégarde, on laisse la 4G sur le smartphone en question au lieu de passer en Wi-Fi une fois qu'on est arrivé à la maison. Et qu'au petit matin, les vidéos d'Arte, tiens, continuent encore, mais c'était pas du tout celle avec laquelle j'avais commencé. Et voilà, chez certains opérateurs, ça coûte cher, très cher.
Et petite astuce, où se trouve le petit bouton pour ne pas avoir l'autoplay continu sur Arte petit écran ? Est-ce qu'il existe ?
Oui, effectivement, il existe. Mais par défaut, il est mis en lecture continue.
Ah, c'est Jean qui veut faire du clickbait de vue. Dommage.
Ouais. Ou alors, bon, peut-être que Arte a des actions chez tous les fournisseurs d'accès, chez les opérateurs. Comment se disons bon.
C'est vrai que là, t'as payé quelques documentaires.
Ouais.
Est-ce que ton subconscient, qui a regardé toute cette vidéo, enfin, toutes ces vidéos pendant toute la nuit, s'en grandit ?
Il m'a dit Cotton Tac au matin, là. Tu sais.
T'as appris des nouvelles langues et tout.
Es gibt
t'as quand même coûté cher à la fin. Mais...
Es gibt eine Kette auf den Tisch.
Je crois que c'est.
Laisse ton tisch là où il est.
Non, je veux juste dire qu'il y a une petite chaîne sur la table. Ah. Non, l'hypnopédie de Aldous Huxley fonctionne bien, non. J'ai bien vu, le matin, je me suis réveillé, j'avais un peu froid au téton.
Merci pour ce témoignage.
En gros, quand tu as la 4G active sur ton smartphone et que tu t'endors devant Arte,
ça
surtout, tu te retrouves avec une facture de merde à la fin.
Oui, voilà, 800 euros.
Ah ouais, ben...
Ouais, parce qu'il y a aussi la notion de qualité de vidéo. Enfin voilà. Donc, bon. Mais donc faites très attention à.
Qu'est-ce que je suis content de pas avoir de smartphone.
Oui.
Est-ce que je l'aurais l'aide. Waouh. Oh,
donc voilà, il faut un peu chercher, mais c'est voilà, ça se trouve. Je sais plus te le dire de mémoire. J'ai pas mes captures d'écran ici, mais au moins faire la différence entre le opt-in d'un côté sur grand écran et le opt-out sur petit écran.
Ouais, je...
Donc, opt-out, c'est quand c'est par défaut. Ah, c'est ça, hein, que je confonde pas.
Oui, c'est vrai que j'ai toujours pas compris au final.
Opt-in, c'est par défaut à cocher.
C'est ça, donc c'est désactivé et tu dois l'activer.
Non,
c'est ça,
opt-in, c'est activé et tu dois le désactiver.
Ouais, d'accord, bon, peu importe.
Opt-out, c'est désactivé et tu dois l'activer. Ou l'inverse ?
Moi, je pense que
c'est ça. Et vice versa !
C'est ça.
Merci, oui, donc en fait, c'est le principe de s'abonner ou pas, volontairement ou pas. C'est-à-dire que t'es automatiquement abonné à quelque chose, ça doit être le opt-in ou opt-out, je ne sais plus dans quel sens, ou c'est toi qui fais une action active de ta part pour t'abonner à quelque chose.
C'est typiquement la lecture automatique.
Voilà, la lecture automatique, ou une mailing list, ou
voilà.
Recevoir les pubs d'un service quelconque.
Si vous voulez, j'ai la réponse de la
semaine. Ah, la réponse, 42.
Alors, le opt-in, c'est obtenir l'accord du destinataire. S'il n'a pas dit oui, c'est un non.
Oui. C'est bien un truc d'informatique.
Ouais, je comprends plus rien.
If not yes, then no.
The yes needs the no.
S'il n'a pas dit oui, c'est un non. Oui, c'est ça, tout à fait.
Donc, en gros, l'opt-in, c'est si tu n'as pas explicitement dit que tu le voulais, tu ne l'auras jamais.
Voilà.
Et l'opt-out, si tu n'as pas explicitement dit que tu ne le veux pas, tu l'auras toujours.
Ok, donc c'est ta raison. Je crois.
Donc c'est if nothing, then yes.
Voilà. Non, mais arrête, Raffarin, c'est bon.
Voilà. Eh bien, nous allons se quitter sur un peut-être.
Ouais.
À dans 15 jours.
À peut-être dans 15 jours.
Si le monde nous suit jusque-là.
Oui, voilà, parce qu'il y a What is in the Rainbow Ships qui est dans la place. Et ça va chauffer. Très chers vous tous.
Texas Selecta.
Frédéric, merci. Et Géo, merci.
Merci.
Thiers, merci.
Merci Terry Rock, et bonne soirée, bon week-end.
Et merci à nos amis Clément, Virginie, Robert sur le net.
Et merci et aux auditeurs qui doivent saigner.
Mais il les a cités.
Personne n'a du pouvoir sur personne. Nous encourageons la coopération entre les utilisateurs. Avec un programme où les utilisateurs ont le contrôle du programme, où le programme a le contrôle des utilisateurs.
Le seul incitation à innover, c'est qu'on